Sud Radio, service compris. 12h30, 14h, Véronique Jacquier.
Le service compris d'un professeur de médecine le mercredi. Vous êtes gâtés quand même, hein, professeur Boyan Christophorov. Bonjour.
Bonjour Véronique.
Le mercredi, un professeur de médecine. Le jeudi, un avocat. Le vendredi, un notaire. Le lundi, un coach en charge d'emploi. Le mardi, un expert en crédit immobilier. Franchement, moi, je me demande pourquoi toute la France n'écoute pas Sud Radio, hein, entre midi et demi et 14h. Allez, professeur, vous allez nous parler aujourd'hui de l'ostéoporose. Vous êtes ancien chef de service interniste à l'hôpital Cochin. Vous en avez vu, hein, en tant que chef interniste. Rappelez-nous ce que c'est que d'être un chef de service interniste.
C'est une médecine de synthèse de toutes les spécialités et une spécialité qui est consacrée à des maladies rares, hein, une liste de maladies.
Voilà, c'est pourquoi les auditeurs peuvent vous appeler pour vous interroger, presque si j'ose dire, sur n'importe quel sujet de santé. Vous êtes aussi gastro-entérologue. Et l'ostéoporose, alors pourquoi nous parler aujourd'hui de l'ostéoporose? C'est presque une question de santé publique parce qu'on va insister lourdement sur la prévention, hein, parce que c'est finalement une forme de maladie silencieuse, non, professeur?
Tout à fait, ce n'est pas presque une question de santé publique, c'est une des grandes questions de santé publique. Vous savez que tous les ans, il y a 150 000 fractures qui sont liées à l'ostéoporose. C'est-à-dire que pour un traumatisme minime ou pas de traumatisme, quelque chose se casse. Parmi ces fractures, il y en a qui sont dans la catégorie de ce qu'on appelle les fractures graves, c'est-à-dire des fractures qui vont hypothéquer l'avenir. Tout le monde connaît une vieille tante qui s'est cassé un jour le col du fémur et à partir de là, malgré les opérations, etc., ça a été le déclin. Donc c'est quelque chose qui attaque non seulement la capacité de se mouvoir, mais également la survie.
Oui, alors c'est très très important d'insister là-dessus, hein. Vous les auditeurs de Sud Radio, vous vous dépêchez d'appeler si justement vous souffrez d'ostéoporose. Vous allez évidemment nous expliquer précisément ce que c'est. Je ne vais pas le dire à votre place, professeur, mais en préparant cette émission, j'ai vu qu'il y avait entre 2,5 millions et 3,5 millions de femmes qui étaient touchées par l'ostéoporose après la ménopause, hein. Vous allez nous expliquer pourquoi justement. Qu'est-ce que l'ostéoporose?
On va jusqu'à 4 millions. L'ostéoporose, c'est la fragilité des os qui les rend très sensibles au traumatisme et quelquefois un tout petit coup, quelquefois de soulever un poids lourd vous fait casser ou le col du fémur ou les vertèbres. C'est douloureux et quelquefois ça nécessite une réparation et ça entraîne une impotence.
Et pourquoi les femmes sont-elles plus touchées que les hommes? Alors j'ai évoqué la ménopause, il y a un autre facteur?
Il faut se rappeler le cycle de l'os. Le cycle de l'os, on grandit, l'os s'allonge jusqu'à à peu près 18-20 ans. Et puis entre 18 et 23-25 ans, il se solidifie, il acquiert sa densité maximale. Et puis ensuite, avec le temps, très lentement, tous les ans, on perd un petit peu de densité osseuse. Alors, les femmes sont exposées parce que, chez elles, les estrogènes, les hormones sexuelles, sont responsables du maintien en bon état de l'os. Et lorsque la ménopause survient, brusquement, la déminéralisation, la perte de solidité s'accentue beaucoup.
D'accord, donc ça veut dire qu'une femme doit faire attention à partir de l'âge de 45-50 ans?
À peu près.
Oui.
Il faut le savoir. Alors, il y a des femmes qui, malheureusement, ont des ménopauses précoces. On les a opérées des ovaires, etc. Donc, le compte à rebours commence beaucoup plus tôt.
Mmh. Et pour les hommes, alors?
Les hommes, c'est beaucoup plus rare. Il y a aussi un autre aspect. D'abord, les hommes ont des os plus épais, plus lourds. Et puis, il y a la notion de l'exercice physique. L'exercice physique, la contrainte, c'est-à-dire le fait de s'appuyer sur les os, de leur imposer des chocs, des efforts, fait que l'os se solidifie. À l'inverse...
Ah bon?
Absolument.
Ah oui, donc c'est très bon de faire de l'exercice physique.
La natation n'est pas bonne pour l'os, elle est bonne pour la santé en général. Mais la course à pied, la gymnastique est bonne parce que les os sont en permanence secoués et subissent des contraintes mécaniques.
D'accord. Et alors, comment explique-t-on qu'il y ait une augmentation des cas d'ostéoporose de 5% par an, ce qui est beaucoup quand même?
Bien, l'espérance de vie s'allonge également, vous l'aviez peut-être remarqué.
Oui, on a remarqué.
Alors, l'âge est un des facteurs importants de l'ostéoporose.
D'accord. Allez, on a Colette qui est déjà avec nous. Bienvenue sur Sud Radio, Colette.
Oui, bonjour.
Bonjour Colette.
Alors, on vous écoute avec le professeur Christophorov.
Bon, alors donc, effectivement, on a diagnostiqué de l'ostéoporose Bon, en 2004, suite à une fracture de vertèbre après avoir porté quelque chose de lourd. Donc, bon, après, on m'a proposé un traitement oral et j'avoue que je n'étais pas très motivée car c'était assez assujettissant et je me suis très bien remise de cette première fracture. Bon, malheureusement pour moi, 10 ans après, j'étais rattrapée par la maladie suite à une chute sur le verglas. Quelques temps après, donc d'autres vertèbres ont été atteintes. Donc moi, en fait, mon souci, si vous voulez, c'est pour les personnes qui sont atteintes d'ostéoporose et bon sévère, c'est en fait, bon, je trouve qu'on n'est pas suffisamment vigilant sur la rééducation, d'une part, et ensuite, bon, on vous propose des traitements qui sont quand même des traitements très lourds et où on sait qu'il peut y avoir quand même des effets secondaires importants. Donc ma question est la suivante. Bon, moi j'ai été soumise à une molécule pendant 3 années, et là maintenant on me propose un autre type de molécule. Et bon, j'aurais peut-être pas dû regarder sur internet, mais c'est quand même des molécules qui sont considérées comme dangereuses, notamment par prescrire. Donc je voulais savoir un petit peu où on en était par rapport à tous ces traitements.
Écoutez, la grande difficulté, c'est lorsque les patients s'érigent en spécialistes et ils lisent tous les mots des notices. Quant à la revue à laquelle vous faites allusion, c'est une bonne revue, mais elle est en guerre permanente avec les laboratoires. Les effets secondaires sont réels. Ils sont de moins en moins graves et de moins en moins nombreux avec le temps qui passe, car il y a des nouvelles molécules qui sortent. Et maintenant, il y a des traitements qui se bornent à une injection intramusculaire par semestre ou par an. Alors, vous ne pouvez pas me dire que vous serez gravement perturbé. En revanche, quand on a des fractures vertébrales, quand on est invalide d'une hanche, je vous assure que c'est beaucoup plus grave.
Mais les effets secondaires des médicaments, on parle des corticoïdes et uniquement des corticoïdes ?
Ah, non. Les corticoïdes provoquent l'ostéoporose.
Ah d'accord.
Notre ami parle des effets indésirables des traitements de l'ostéoporose, des
traitements
contre l'ostéoporose.
D'accord. Bon, alors, vous avez vu, Colette, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, quelque part.
Oui, c'est pas facile parce que le corps médical et même notamment les dentistes, parce que bon, c'est très rare, mais il peut y avoir des effets importants sur notamment la mâchoire, vous font peur, etc. Donc quand vous êtes le patient, vous voyez, vous savez plus très bien bon, ce que vous devez faire.
Vous connaissez le docteur Knock. Il agissait, son pouvoir tenait à sa capacité à faire peur aux gens. Les nécroses du maxillaire sont rarissimes. C'est vrai qu'il faut y penser, il faut vérifier l'état des dents, mais vous ne trouverez pas beaucoup de dentistes qui ont observé ça. Ça existe, mais c'est un risque minime.
Voilà, donc Colette, il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon pour rien, c'est un peu ça, hein, professeur.
Oui, il faut lire un peu moins de notices, je crois, parce que sur les notices, tous les effets indésirables sont mis sur le même plan. Or, ce n'est
c'est
pas
vrai.
Le cas.
Très bon. Bien, écoutez.
Colette, allez, je vais vous faire un petit cadeau quand même, hein, parce que c'est important. Vous avez eu, on vous a diagnostiqué de l'ostéoporose. Vous nous avez dit qu'en plus, il y avait quand même, les effets secondaires liés à certains médicaments. C'est vrai qu'on n'y pense pas suffisamment, hein, professeur.
La cortisone, les
voilà. On va rentrer dans le détail. Mais Colette, allez, pour vous faire du bien au moral et pour que vous soyez en pleine forme, je vous offre un abonnement par Interflora. Vous allez recevoir 3 beaux bouquets de fleurs, un chaque mois, un au mois de mai, un au mois de juin, un au mois de juillet, le tout pour la fête des mamans, hein, qui aura lieu dimanche prochain. Petit message de rappel pour tous les auditeurs, bien sûr, pour qu'ils n'oublient pas leur maman. Voilà. Et puis comme ça, vous n'oublierez pas Sud Radio non plus, Colette.
Entendu.
Voilà, je sens déjà quand même que vous êtes ragaillardie, hein, que vous êtes un petit peu moins inquiète. Bon, c'est très sympathique en tout cas de vous avoir écouté, parce que moi je trouve, professeur, que le témoignage de Colette est intéressant à plus d'un titre. D'abord, elle a dit « on m'a diagnostiqué l'ostéoporose ». Donc vous allez nous expliquer, comment on diagnostique, c'est-à-dire qu'il y a des paramètres scientifiques qu'on prend en compte, c'est ça ? Comment on le sait qu'on a l'ostéoporose et pas autre chose ?
Eh bien, la plupart du temps, en tout cas ça devrait être toujours, l'ostéoporose est diagnostiquée avant les ennuis.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc, elle ne donne à ce moment-là aucun symptôme. Mais on le sait, on sait que l'approche de la ménopause rend très fréquente l'ostéoporose. On sait que les gens qui ont été traités à la cortisone risque d'avoir une ostéoporose précoce.
Oui, mais attendez, traiter à la cortisone, il faut rassurer nos auditeurs, pendant 6 mois, pas pendant 15 jours. Non,
15 jours, ça commence. Une semaine, c'est pas grave. Mais
ah
au-delà,
bon
à partir d'un mois, ça commence et ça va assez rapidement.
Ah oui.
Voilà. Donc il faut y penser, il faut demander. L'examen qui permet le diagnostic, c'est l'ostéodensitométrie. C'est un examen, c'est une radiographie, mais avec un très faible rayonnement, on ne prend pas des rayons de façon dangereuse, et qui mesure la densité des vertèbres, la densité du col du fémur, éventuellement la densité du poignet. Ça, c'est moins fréquent. Et en fonction de la densité que l'on enregistre, on se rend compte quel est l'état. Les spécialistes de rhumatologie se plaignent. Ils se plaignent de ce que le nombre des ostéodensitométries demandées en France diminue. Il diminue même de 5% par an. Parce que les médecins n'y pensent pas, les patients ne pensent pas à leur demander à leur médecin, et c'est quelque chose d'inquiétant.
Oui, c'est doublement inquiétant, puisque vous nous avez dit en préambule que quand il y avait une chute et donc fracture à la clé, hein, il fallait non seulement se remettre de la chute, mais que derrière, il pouvait y avoir quand même tout le déclin cognitif que ça entraînait quand on avançait en âge. Hein.
Tout à fait, mais quand vous avez 55 ou 60 ans et qu'on vous dit « vous risquez dans 20 ans d'avoir ceci et cela », aujourd'hui, je ne suis pas pressé.
Alors, vous allez nous expliquer dans une poignée de secondes, professeur, comment on remédie, comment on agit d'une façon préventive hein, pour ne pas souffrir d'ostéoporose en avançant en âge. Et on attend, bien sûr, les questions des auditeurs de Sud Radio via le 0826 300 300 et via la page Facebook Service Compris. Faut que ça bouge. Vous avez la chance d'avoir un professeur de médecine. Posez-lui les questions qui vous turlupinent sur l'ostéoporose ou racontez-nous comment vous vivez avec. Vous avez un petit message à faire passer aussi aux auditeurs pour les rassurer ou pour les conseiller. Vous n'hésitez pas, cette émission est faite pour ça. Allez, on vous attend, à tout de suite.
Sud Radio, service compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier.
Et surtout le beau service compris du professeur de médecine Boyan Christophorov qui vous éclaire sur l'ostéoporose, qui vous conseille, qui vous rassure. Alors on a besoin d'être rassuré professeur parce qu'on avait Colette qui nous disait qu'elle souffrait du traitement qu'elle prenait pour l'ostéoporose. Qu'est-ce qu'on donne quand on diagnostique quand on nous dit à 70 ans, madame, vous souffrez d'ostéoporose, comment on peut aider après que le mal ait été fait évidemment.
Bien, je serais curieux de savoir de quoi souffrait Colette du fait du traitement en dehors de l'inquiétude que lui a procuré la notice. Car il y a des effets indésirables, mais ils sont très très rares. Bon, c'est vrai, il faut en tenir compte. Quels sont les traitements ? Ils sont multiples. D'abord, lorsque les conditions le permettent et que c'est rendu nécessaire par les bouffées de chaleur, le traitement hormonal substitutif est un élément qui retarde l'ostéoporose chez les femmes de façon très nette. Bon, ça, c'est à décider avec le gynécologue en fonction d'autres paramètres. Sinon, il y a un certain nombre de substances, dont les plus fréquentes portent le nom de biphosphonate, ça n'a pas beaucoup d'importance, qui stoppent la destruction osseuse. Mais je dis bien qu'ils stoppent. Ils ne reconstituent pas l'os.
Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il le renforce alors ?
Il stoppe la destruction.
Bon,
la vie de l'os est très particulière. Il y a des cellules qui détruisent, il y a des cellules qui construisent.
Mm-hmm.
La vie de l'os est l'équilibre entre ces deux phénomènes. Donc, lorsque l'ostéoporose s'installe, c'est que les cellules qui détruisent, s'appellent les ostéoclastes, sont plus actives que celles qui reconstruisent.
Mm-hmm.
Bien, ces traitements-là stoppent ce déséquilibre, mais on ne retrouve pas un squelette de 20 ans.
Michel est avec nous via le 0826 300 300. Bonjour Michel, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour. Bonjour professeur.
Bonjour.
Donc moi j'ai vu beaucoup de rhumatologues là pour mes problèmes de dos. Et donc j'ai eu l'ostéodensitométrie et j'ai eu en plus des analyses de sang et d'urine. Et donc j'ai découvert qu'il y avait une analyse qui s'appelle CTX. Les cross laps. Mais ce qu'il y a, c'est pas tous les médecins, même mon médecin traitant, lui, il sait pas ce que c'est. Donc il y a des médecins qui connaissent, d'autres qui connaissent pas.
Non, madame, je vous interromps. Le CTX n'est pas un examen, c'est un score. C'est un score qui se fait avec plusieurs facteurs qui sont déterminés par tous les médecins. Et ce score a été proposé à beaucoup de gens. Finalement, les rhumatologues spécialisés préconisent son abandon. parce qu'il ne satisfait pas tout à fait les gens, il fait peur quelquefois aux gens. Donc ce n'est pas du tout un nouvel examen, il n'est pas indispensable. Les scores d'ostéodensitométrie suffisent très largement. Mais le CTX est très connu et déjà un peu abandonné.
Oui. D'accord. Alors Michel.
Bon, alors autre chose, j'ai eu l'occasion de rencontrer une naturopathe qui faisait ses conférences sur la ménopause, et elle a un appareil qui s'appelle l'oligoscan. L'oligoscan qui mesure donc les différents produits qu'on a dans le corps, les minéraux, le magnésium, tout ça. Et donc, très rapidement, elle peut dire les chiffres qui correspondent à nos minéraux. Donc, est-ce que vous connaissez cet appareil ?
Oui, mais ce sont des appareils qui n'ont aucune existence réelle.
Pas de valeur scientifique, c'est ça,
aucune,
professeur, c'est ça ?
Aucune, oui. Aucune.
Ah, d'accord. Alors, Oui, mais en fait, du coup, l'appareil sert quand même à quelque chose ?
Pas à ma connaissance.
Pas à votre connaissance, d'accord. Donc Michel doit faire confiance à son naturopathe ou pas ?
Écoutez, je n'entre pas dans la polémique
oui, oui.
de médecine, pas de naturopathie.
Vous savez, Michel, hein, les professeurs de médecine et les naturopathes, ils ne sont pas forcément tous copains. Hein. Je vais présenter les choses comme ça.
Ce n'est pas une question d'amitié. C'est chacun fait ce qu'il veut. Il n'est pas interdit d'être naturopathe. Mais oui. La Sécurité sociale ne vous le rembourse pas et les gens qui connaissent le sujet n'y croient pas. Voilà.
Mais bon, après, si Michel a besoin de ça pour être rassuré que ça lui fait pas de mal, pourquoi pas, hein,
absolument.
Michel, voilà. Mais sachez en tout cas que ça n'a pas de valeur scientifique. Voilà, c'est ça le message qu'on fait passer. Après, ça peut faire du bien et sait-on jamais, ça peut agir sur le moral, donc ça peut nous guérir. C'est une forme de guérison. Merci Michel pour votre question. On accueille Jeanne qui est avec nous via le 0800 26 300. Bienvenue Jeanne dans Service Compris sur Sud Radio.
Bonjour.
On vous écoute.
Voilà, je suis atteinte d'ostéoporose. Depuis très longtemps, j'ai fait les contrôles tous les 5 ans, l'ostéo tous les 5 ans. Et puis voilà, moi je pensais que j'étais à l'abri. Et puis, depuis il y a quelques temps, j'ai fait une chute. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup souffert du dos, arthrose, tout le bazar. Et puis, finalement, on me passe un scanner et là, on découvre de multiples fractures, au moins 6 ou 7 fractures de vertèbres, une fracture du bassin. Et alors, actuellement, depuis 5 semaines, je suis avec un corset. Et alors, jusqu'au 6 juin, ça fera presque 2 mois. Que j'aurais eu ce corset. Et alors, on m'a parlé peut-être d'injection, d'un ciment ou je ne sais quoi. Alors, je voudrais savoir un petit peu quoi, ce qu'il en est. Et parce qu'on me dit aussi que chez moi, c'est génétique aussi. Dans la famille, beaucoup d'ostéoporose et d'arthrose. Alors, j'ai 84 ans, j'étais en pleine forme, et je fais beaucoup de montagnes, beaucoup de marches. Alors, voilà. Je pense à mon avenir et j'aimerais savoir ce qui peut se passer peut-être.
Alors écoutez, vous illustrez très bien le sujet. Vous êtes 4 millions au minimum en France à être dans ce cas.
Oui.
Les fractures vertébrales sont très fréquentes et très souvent passent inaperçues. C'est-à-dire qu'on se tasse petit à petit. C'est une des raisons pour lesquelles on perd de la taille, on rapetisse.
Oui. Mais de temps c'est une en conséquence temps, de l'ostéoporose
en grande partie.
Oui.
Et d'autre part, il y a à un moment donné, les tassements peuvent s'étendre et toucher des zones douloureuses et les gens souffrent énormément.
Voilà.
Alors, en ce qui concerne l'injection de ciment, c'est une technique relativement récente qui a des indications très particulières. C'est-à-dire que pour certaines localisations et pour certaines formes de tassement, eh bien, que font les spécialistes ? Ce sont souvent des radiologues qui sont associés aux rhumatologues. Ils injectent un produit qui, en quelque sorte, rehausse, c'est un ciment qui rehausse un peu la vertèbre et la rend solide, l'empêche de continuer à s'affaisser. Mais ce sont des indications très précises.
Mais vous croyez à ce type de traitement, professeur ?
Bien sûr, ce n'est pas le traitement de l'ostéoporose, c'est le traitement de certains cas très particuliers.
Oui, bien sûr, mais est-ce que c'est à conseiller à l'âge de Jeanne ou à n'importe quel âge ?
Écoutez, je pense que les gens qui lui ont proposé, les gens qui proposent cela sont des gens qui ont une très grande technicité Et s'ils le lui ont proposé, c'est qu'elle doit rentrer dans la catégorie des patients qui relèvent de ce traitement.
Mmh. Jeanne, vous c'est voilà rassurée.
C'est ce que m'a dit ma rhumatologue, qui était en consultation avec un autre rhumatologue, et elle m'a dit quand même, elle est encore en pleine forme, jeune. Bon, paraît-il que je fais beaucoup plus jeune que mon âge, mais ça ne me fait pas grand-chose. Mais c'est que voilà, j'ai beaucoup, beaucoup raccourci, j'ai perdu énormément de taille et tout ça. Alors, ce n'est pas que ce traitement m'effraie, je fais confiance, je suis entre les mains de la rhumatologue. Mais voilà, alors je voulais savoir. Et que pensez-vous, professeur, du collagène ?
Comment ça, le collagène ?
Eh bien, mais on m'a parlé, il y a quelqu'un qui prend soi-disant du collagène.
Ah ben, vous en prenez sans le savoir. Le collagène se trouve dans la viande que vous mangez, surtout
oui.
Si elle est un peu cartilagineuse. Vous pourriez manger des tonnes
de
ben, peut-être, mais enfin, ça, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais
oui.
le collagène, c'est une protéine, c'est une nourriture. Vous
oui.
la mangez, vous
oui.
la digérez,
oui.
et puis voilà.
Oui.
Et ça
oui,
ne
oui,
va
oui,
pas
oui.
dans les os.
Mmh. Ah bon, oui, je m'en doute.
Oui, je
profite
d'un point pour dire que l'ostéoporose n'est pas une affaire de calcium ingéré.
Oui.
On dit souvent
oui.
il faut manger du fromage,
oui,
du laitage,
vous poser la question,
etc.
Oui.
Effectivement,
ah, je
c'est
crois
bon.
Pas.
Non, c'est nécessaire, okay. mais ça ne suffit pas. D'ailleurs,
suffit pas,
la plupart des gens en France ont en matière de laitage et de fromage une alimentation qui est correcte. Si
oui.
vous manquez
oui.
de calcium, ça aggrave les choses. Mais l'ostéoporose, oui. ce n'est pas le manque de calcium.
Voilà, c'est important.
Voilà,
c'est important.
D'accord.
Jeanne,
bien.
Évidemment, suivez bien les conseils du professeur Boyan Christophorov. Soyez quand même rassurés par rapport à cette injection de ciment. C'est quand même impressionnant. Moi, ça m'impressionne, professeur. On accueille Xavier. Allez, un homme, tiens, pour parler de l'ostéoporose. Ça me fait plaisir. Bonjour, Xavier.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Alors, bonjour.
Voilà, moi, c'est plutôt une expérience familiale. J'ai une tata qui est maintenant à presque 80 ans et qui fait partie d'une génération qui a connu certaines privations et auquel on a diagnostiqué une ostéoporose sévère. Et on lui a souvent répété que c'était dû à certaines privations de son enfance. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si ça lui a été dit pour donner une raison, hein, pour qu'elle cesse de se demander d'où ça pouvait venir, d'une part. Et je voulais savoir si, avec les moyens d'aujourd'hui, la santé, bien sûr, et la nourriture, est-ce qu'il y a des améliorations ou est-ce que c'était vraiment pour lui donner une raison, tout simplement ?
Écoutez, les carences de la guerre ont peut-être ralenti la croissance des gens, mais nous avons des ostéoporotiques qui sont nés bien après la guerre et qui sont également malades. Je ne crois pas qu'il faille retenir cette explication. Quant au régime alimentaire, il n'y a pas de régime spécifique qui vous protège de l'ostéoporose. Il faut manger de manière équilibrée avec suffisamment de protéines. Le traitement de l'ostéoporose, il est préventif. C'est-à-dire que c'est à 50 ans qu'il faut y penser. C'est là qu'il faut faire une ostéodensitométrie. Et s'il y a une ostéoporose, il faut prendre des mesures. Une fois que l'ostéoporose est constituée, on ne peut qu'arrêter sa progression.
Oui, mais qu'est-ce qu'on prend comme mesure, professeur ?
Il y a des médicaments.
Ah non, mais on ne va pas commencer à prendre des médicaments à 50 ans.
Ça dépend. Si à 50 ans, on se rend compte que l'os est normal, on ne fait rien. D'ailleurs, l'âge de la première ostéodensitométrie se discute entre 50 et 60 ans, selon les gens, selon ce qu'ont vécu les gens, s'ils ont eu des médicaments, s'ils ont des maladies ou non.
Oui, mais alors moi je me mets à la place des auditeurs de Sud Radio, moi spontanément, au lieu de prendre des médicaments, je me précipiterai sur des laitages en pensant que ça va faire du bien à mes os.
Mais précipitez-vous, si vous manquiez de laitage, vos os en souffriraient, mais si vous avez la consommation normale et moyenne, ça n'augmentera pas.
Oui. Pour aller plus loin que la question de Xavier, est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'on est tous égaux face à l'ostéoporose ? Alors évidemment, on a parlé du distinguo homme-femme, mais est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques ? Est-ce que si on est très très maigre, ça joue aussi ? Enfin, est-ce qu'il y a des facteurs favorisants ?
Alors, vous avez tout à fait raison, il y a une génétique. Il y a une génétique, ce n'est pas une génétique simple avec, vous savez, le gène comme l'hémophilie, etc. Mais
oui.
Il y a des familles où il y a davantage d'ostéoporose. Il y a également l'histoire et ce que vous parliez, vous disiez l'histoire de l'alimentation. Par exemple, les gens qui ont été anorexiques, les gens qui ont très peu mangé, qui ont été très maigres, sont beaucoup plus exposés. Ceux qui ont fait l'anorexie mentale, il faut les voir dès 45 ans. Et puis, ceux qui font du sport et ceux qui n'en font pas. Ceux qui sont des sportifs qui ont une ossature solide seront mieux protégés. Ceux qui sont de purs intellectuels, beaucoup moins.
Et quand on est carencé en vitamine D, alors on entend ça aussi, que si on est carencé en vitamine D, on est un bon profil pour l'ostéoporose.
Si on est carencé en vitamine D, on a une autre maladie qui s'appelle l'ostéomalacie.
C'est-à-dire que
les os sont fragiles, mais les os sont fragiles parce qu'il n'y a pas suffisamment de calcium fixé. Mais c'est quelque chose d'assez rare.
D'accord. Xavier, merci pour votre intervention. Très rapidement, professeur, tiens, on a une question sur notre page Facebook, service compris, faut que ça bouge. Caroline qui nous dit, elle est jeune visiblement, hein. Elle dit, j'ai des antécédents d'arthrite dans ma famille. Je bois, je ne sais pas comment elle boit, Caroline, mais enfin, elle boit, elle fume. Et elle n'a pas d'activité physique. Est-ce qu'elle peut être sujette à l'ostéoporose quand elle sera plus vieille?
Oui,
donc en gros,
plus,
mauvais profil parce qu'elle ne bouge pas, elle boit, elle fume.
Et
les antécédents d'arthrite, ça compte ça?
Non, mais elle fait bien de nous le rappeler. On avait oublié de le dire, le tabac et l'alcool sont des éléments aggravants de l'ostéoporose. Et toutes ces femmes qui fument actuellement, il suffit de se promener dans la rue pour les voir la cigarette au bec, je suis inquiet pour leur avenir.
Bon, oh là là, professeur, mais vous nous inquiétez tous.
À bien des égards.
Bien sûr. Allez, voilà, réponse pour Caroline. Caroline, on arrête de fumer, de boire et on fait du sport. Voilà, comme ça on est sûr de bien avancer sereinement en âge. Merci beaucoup, professeur Boyan Christophorov. On vous retrouve très prochainement. J'espère que tous les auditeurs ont été bien éclairés sur l'ostéoporose et qu'ils vont faire attention à leur capital santé. Dans un instant, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Je vous retrouve demain. Passez une très très belle après-midi.